Bonsoir, comment allez-vous? Comment reconnaît-on un médecin à sa blouse blanche? Mais dans un hôpital, il y en a plein, des personnes en blouse blanche. Le médecin, lui, a un accessoire autour du cou, le stéthoscope. Il n'a pas toujours existé, ce stéthoscope. Le professeur Jean-Noël Fabiani, dans son incroyable histoire de la médecine, nous raconte comment le médecin était obligé de coller son oreille sur la poitrine de son patient, ou de sa patiente, pour écouter ce qui se passait à l'intérieur, l'écouter aux portes. Je vous passe les inconvénients que cela pouvait représenter. Un jour, le docteur Laennec était particulièrement embarrassé, il rentre à pied, il passe par le Louvre, et là, il voit des gamins qui jouent avec une longue poutre. À une extrémité, l'un grattait avec une épingle, pendant qu'à l'autre bout, son copain s'amusait à écouter le son imperceptible à une telle distance, mais conduit par la poutre. Et voilà l'idée. Laennec s'est bricolé un stéthoscope en bois au début. Allez, un autre instrument. C'est le drapier hollandais Anthony van Leeuwenhoek qui a découvert le microscope en se bricolant une machine pour compter le nombre de fils qu'il y avait dans les pièces de tissu qu'il recevait des Indes. Quant à la mesure de la pression artérielle, elle a été découverte grâce aux chevaux, à un pasteur et à un vétérinaire. Hasard, curiosité, humilité, chance et souffrance ont fait avancer la médecine. Le professeur Jean-Noël Fabiani, dont le job premier est d'être chirurgien cardiovasculaire, enseigne, dirige un service à l'hôpital européen Pompidou à Paris. Il a écrit pour partager sa passion de la médecine une incroyable histoire de la médecine en bande dessinée, illustrée par Philippe Bercovici, édité aux Arènes.
Bonjour, je m'appelle Oriane, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir comment les chirurgiens font quand ils font une opération pour ne pas faire entrer de bulles dans le sang. Merci, au revoir.
Professeur Jean-Noël Fabiani, je ne comprends pas très bien la question d'Oriane, mais vous comprenez, j'imagine.
Ah oui, je comprends très très bien, c'est une très bonne question. Le sang est dans les artères. Il ne peut pas y avoir d'air qui soit mêlé au sang, c'est pas possible. Parce que si jamais l'air se trouve dans le sang, il risque de faire comme une embolie, en empêchant le sang de passer. Et donc, par exemple, d'entraîner un accident vasculaire cérébral.
Donc l'air et le sang ne font pas bon ménage.
Ils font pas bon ménage. Donc il faut absolument enlever l'air qui se trouve dans le sang et qu'aurait fait entrer le chirurgien, par exemple. Et quand le chirurgien ouvre un cœur, évidemment, de l'air y entre. Donc il faut le purger. Et il y a une technique à la fin d'une opération de chirurgie du cœur qui consiste à purger le cœur, où on va mettre des petites aiguilles un peu partout pour que l'air sorte. Et on va augmenter la pression du sang à l'intérieur du cœur pour pousser l'air à l'extérieur. Donc la question que nous pose notre petite amie est très intelligente. Il faut absolument purger complètement le sang du patient après une opération. Si jamais il restait une bulle, on serait obligé de mettre notre patient dans un caisson hyperbare, comme quelqu'un qui ferait un accident de plongée, de façon à enlever l'air de son sang.
Ça fait longtemps qu'on sait ça?
Ah oui, depuis les débuts de la chirurgie cardiaque, tout simplement.
Ce soir, dans Les Petits Bateaux, nous saurons combien il y a de pièces au répertoire de la comédie française, comment se fabrique la morve du nez et si les moucherons sont des bébés mouches ou pas du tout. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 4 ans et demi et je veux savoir si Robin des Bois a existé. Merci de nous répondre.
Bonjour, je m'appelle Arthur. J'habite à Saint-Étienne, j'ai 6 ans, je voudrais savoir, est-ce que Robin des Bois a existé en vrai? Merci, au revoir.
Mathieu et Arthur, qui sont vraiment charmants. Didier Le Fur, vous êtes historien, alors pouvez-vous leur répondre?
Je suis désolé, mais Robin des Bois n'a jamais existé. Mais il a existé d'autres Robins. C'est d'ailleurs, Robin des Bois, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est une création. Mais le Robin Hood, avec un H au lieu du W, a sans doute existé au XIIIe siècle. C'est un paysan, un voleur, un brigand, un vaurien, un homme qui se bat dans tous les coins et qui a eu sans doute des procès qui ont été faits autour de cet homme. Et puis, sans doute que ces procès ont développé l'imaginaire aussi d'autres auteurs et l'ont utilisé par la suite comme un héros. Et au XIIIe siècle et XIVe siècle, eh bien, Robin Hood...
En Angleterre, donc.
C'est ça, en Angleterre, et qui veut dire Robin la Capuche, ou Robin le Vaurien, ou Robin le Truand, eh bien, va être le héros d'une quantité de poèmes, de romans. Alors, c'est forcément un méchant, c'est forcément un bagarreur, c'est forcément aussi un pauvre, qui va détrousser les riches, qui va lutter contre l'administration, notamment contre le shérif de Nottingham, et puis aussi contre les moines ou l'église. Donc, on est dans un personnage qui est un personnage à la fois populaire, mais en mal, et qui trouble l'ordre public. À partir du XVe siècle, on garde encore l'idée de Robin Hood, mais on va le transformer et finalement, le mauvais va devenir bon. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre contre tout le monde, il va se battre pour une cause, c'est-à-dire pour les faibles. Il reste toujours un paysan, mais il devient le libérateur des faibles.
Mais il le devient dans l'imaginaire.
Dans la littérature. On est toujours dans un héros de littérature. Et c'est simplement à la fin du XVIe siècle où le théâtre élisabétain, sous le règne d'Élisabeth Ière, donc, va reprendre cette légende, ce héros, et va en faire non plus un paysan libérateur, mais un noble libérateur. Et c'est là où on va lui donner son titre de Robert de Locksley. Et c'est là aussi où on va commencer à structurer la légende autour de la Troisième Croisade et des rapports entre la noblesse, la politique et la succession royale entre Richard et Jean. Mais il faut attendre le début du XIXe siècle avec Walter Scott et son célèbre roman Ivanhoé pour que le texte et le sujet deviennent mondialement connus. Et là, on va enrichir les personnages. Le moine du XIVe qui se fait battre par le méchant Robin Hood devient le copain de Robin Wood, ou de Robin des Bois. Mais on va lui garder malgré tout, dans son apparence, sa fameuse capuche, qui est à l'origine finalement du personnage. Et on va en faire un libérateur des paysans et un défenseur de toute la pauvreté et des pauvres en général.
C'est amusant, Didier Le Fur, de voir, enfin d'entendre, puisqu'on vous entend, les éléments qui restent et les éléments qui se transforment.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais finalement, cette légende de Robin des Bois se construit exactement de la même façon que les souvenirs que l'on a de personnages réels. C'est-à-dire que pour qu'ils demeurent, on doit les adapter continuellement à une situation. Et un personnage, une reine ou n'importe quoi, quand vous la connaissez aujourd'hui, c'est qu'elle a traversé le temps et donc elle s'est adaptée à toute une série de modes et de références dans notre imaginaire contemporain pour qu'elle soit actuelle.
Tous les livres de Didier Le Fur sont passionnants. Je ne sais pas lequel choisir. Alors c'est vous qui choisirez, vous les trouverez sur le site des Petits Bateaux via franceinter.fr.
S'engage, que restera-t-il de nous à la fin du jour? Quelques garçons perdus, quelques noms sans visage, si nos yeux fatigués se mélangent à l'amour. Fais la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras. Oh 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 oh, oh oh oh. Fais la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras. S'avance, que restera-t-il de nous à la fin du jour? Laissons venir à nous ce revers de caresse. Le temps nous prendra tous nos parfums, nos ivresses. C'est la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras. Oh 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 oh, oh oh oh. C'est la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras. C'est la nuit qui s'avance. Plus personne ne saura qui nous sommes. Et nous serons debout, sans nom et sans visage. Aucune trace à laisser, plus rien à oublier. C'est la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras. We'll be right back.
C'était 23 minutes, extrait du deuxième album de Radio Elvis.
Les petits bateaux sur France Inter.
Les individus d'une catégorie qu'on ne connaît pas se ressemblent tous. On a l'impression, par exemple, que chez les riches, tout le monde est riche de la même façon. Mais pas du tout. Chez les riches, il y a des ultra-riches, des moyens riches. Chez les pauvres, il y a des ultra-pauvres et des juste pauvres. Chez les grands, il y a des immenses, des grands, des moyennement grands. Et chez les petits, il y a des petits et puis des tout petits, puis des tout petits, tout petits. Vincent Albouy s'occupe de tous les petits. Il est entomologiste.
Je m'appelle Maëlys, j'ai 12 ans et je voudrais savoir si les moucherons vont se transformer en mouches. Merci de me répondre. Au revoir.
Ah, c'est amusant ce que demande Maëlys. Vincent Albouy.
En fait, comme nous sommes des mammifères, nous avons une croissance continue. On commence bébé, on finit adulte. Donc, on a tendance à se dire les moucherons sont des petites mouches. Alors, étymologiquement, moucheron, ça veut dire petite mouche. Mais ce sont des espèces différentes parce que les moucherons, comme les mouches, sont des adultes. Les larves, c'est-à-dire les bébés des mouches, ce sont des asticots. Qui d'ailleurs n'ont pas d'ailes, parce qu'il y a une transformation profonde entre la larve et l'adulte, au moment de la pupe.
La pupe?
Oui, la pupe.
Comment ça s'écrit?
P-U-P-E, c'est latin pupa, qui veut dire poupée d'ailleurs, parce que c'est un petit tonnelet rond, tout rond. Ça correspond à la chrysalide des papillons, la nymphe de tous les insectes à métamorphose complète, où l'adulte ne ressemble pas du tout, donc c'est comme la chenille et le papillon, le ver blanc et le hanneton, voilà.
Tout ça, oui. Chez nous, notre enfant est comme nous en plus petit,
voilà.
Pour faire ça.
Chez certains insectes, c'est comme ça. Les perce-oreilles, c'est comme ça. Le bébé perce-oreille, en quelque sorte, ressemble à l'adulte. Il n'a pas d'ailes, mais ses ailes se développent progressivement. Et entre la dernière larve et l'adulte, il n'y a rien. Il y a une mue, il change de peau et il devient tout de suite adulte. Alors qu'entre la dernière larve de ces insectes à métamorphose complète, c'est-à-dire les coléoptères, les guêpes, les abeilles, les papillons, les mouches, les moustiques, entre la dernière larve et l'adulte, là, il y a un stade immobile, une sorte de deuxième œuf, et qui donne l'adulte. Et donc, là, l'adulte est complètement différent de la larve. Mais donc, un moucheron, c'est un adulte et il bougera plus, c'est fini.
Donc, le bébé de la mouche, c'est
l'asticot.
L'asticot. Et le bébé du moucheron?
C'est aussi un asticot.
Tout petit.
Plus petit.
Eliane me dit que ce n'est pas une bonne idée d'avoir diffusé cette question en hiver parce que nous n'avons pas de moucherons sur nos rosiers, par exemple. Mais ma petite Eliane, t'as qu'à prendre un camembert, tu l'oublies sur la table de ta cuisine quelques jours, quelques semaines, et puis tu l'ouvres. Et tu me diras, si tu n'en vois pas, des moucherons. Tu trouves ça dégoûtant? Eh ben, t'as rien entendu.
Appelle Noémie, j'ai 9 ans et je voudrais savoir comment se fabrique la morve dans le nez.
Bonjour Noémie, nous avons évidemment proposé ta question à un médecin, à Marie-Claude Monfray-Fauvadel. Vous êtes ORL. Est-ce que morve, c'est le terme exact employé par Noémie?
On dit plutôt des glaires, hein. Morve, bon, c'est un mot qui n'est utilisé qu'en France, mais morve, c'est une maladie, c'est la maladie des chevaux. Les chevaux attrapent la morve et ils ont effectivement beaucoup de sécrétions à ce moment-là. Mais les glaires dans le nez, c'est parce que dans le nez, comme dans l'arrière de la gorge et les poumons, on a une muqueuse. Une muqueuse, c'est la peau humide, rose, qu'on a aussi dans la bouche. Et muqueuse, il y a des glandes, il y a deux sortes de glandes, il y a des glandes à mucus. Ça fabrique des glaires, comme ça. Et ces glaires, elles vont être dégagées par l'autre sorte de cellule, qui est une cellule avec des petits cils, qui vont propager vers la sortie aussi. Et les glaires, elles sont là dans le nez parce que il faut enrober les particules de pollution, il faut les poussières et tout ça, et ça sert à évacuer tout ça. Et c'est normal qu'il y en ait. Ce qui est pas normal, c'est quand ça devient collant ou visqueux et que ça colle. Et puis ça peut même se sécher, faire des croûtes d'un côté. Ou des fois, quand on est enrhumé, ou qu'on pleure beaucoup parce que l'eau des larmes passe dans le nez aussi, ça devient plus liquide et là, on a la goutte au nez. Sinon, en général, les glaires, elles tombent dans l'arrière du nez et elles vont dans l'estomac.
Parce que finalement, docteur Marie-Claude Monfray-Fauvadel, le nez, on se le lave jamais.
Ben, on a tort parce que justement, ça aiderait à pas faire de croûte et puis avoir un nez bien, bien détergé, bien clean.
Ah bon? Mais il l'avait avec quoi?
Eh ben, avec l'eau de son bain. Tout simplement, on le prend dans la main, on inspire, et puis, ou de sa douche, et puis après, on mouche aussitôt. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on est dans la salle de bain, que c'est plus humide, c'est le meilleur moment pour se laver le nez ou pour se moucher.
Ah, c'est la mort d'un couple, hein, faut faire ça tout seul.
C'est ce que je dis à mes patients. Si vous avez un amoureux, faites pas ça devant lui.
Désolée pour cette réponse peu ragoûtante, je vous avais un peu prévenue, mais vous êtes très nombreux et nombreuses à vous questionner sur ce qui se passe dans notre nez.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
C'était Georges Ezra, Budapest, sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter Les Petits Bateaux. Il y a quelque temps, mon dernier fils est allé avec sa classe voir une pièce à la Comédie Française. Il était habillé comme tous les jours, c'est-à-dire avec des baskets plutôt sales, un jean plutôt moche et puis en haut un truc un peu mou. Et je lui dis, mais il n'est pas question que tu ailles habillé comme ça à la Comédie Française, c'est un endroit très joli et très prestigieux. Il faut que tu aies des belles chaussures, bien cirées et une veste. Et il voulait pas et j'ai insisté, donc il a fini par y aller en veste et avec des belles chaussures. Il était le seul, ils étaient tous en basket et en jean crade. Il m'en veut encore et je peux vous dire que ça fait quand même un bon moment. Agathe Sangian a écrit Comédie Française, édité au Seuil.
Bonjour, je m'appelle Rebecca, j'ai 16 ans. J'entends souvent parler à la radio du répertoire de la Comédie Française et je voulais savoir ce que c'était exactement. Merci.
C'est nous qui te remercions, Rebecca, et nous proposons ta question à Agathe Sangian qui vient d'écrire avec Martial Poisson Comédie Française, une histoire du théâtre, édité au Seuil, et à la Comédie Française. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien, finalement, ce que c'est que le répertoire de la Comédie Française, Agathe.
Alors, le répertoire de la Comédie Française est un catalogue de pièces de théâtre dans lequel ce théâtre, la Comédie Française, va puiser pour composer sa programmation dans la salle Richelieu, qui est la salle principale de ce théâtre, puisque la Comédie Française dispose de 3 salles.
Ah.
La salle historique, c'est la salle Richelieu, qui se trouve à côté du Louvre. Et ne peuvent être jouées dans cette salle-là que des pièces qui sont au répertoire de la Comédie Française. Il y a un peu plus de 3000 pièces.
Non,
ce qui 3000 paraît... Eh oui, ça paraît absolument énorme. Et vous vous doutez bien qu'on en joue finalement assez peu sur ces 3000 pièces. Et c'est une des particularités de ce répertoire. C'est que beaucoup de pièces ont été jouées à un moment, ont eu beaucoup de succès. Et puis finalement, elles sont totalement passées de mode. Et aujourd'hui, on ne peut plus les entendre. C'est vraiment tout à fait désuet. Et même cela concerne de grands auteurs. Par exemple, Voltaire, qui est le plus grand auteur de théâtre au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on ne le connaît plus du tout comme dramaturge. On le connaît comme philosophe, comme homme politique. Mais finalement, pas du tout comme homme de théâtre, alors que vraiment, c'était son activité principale d'écrire des pièces de théâtre et d'être joué à la Comédie Française. Donc les pièces de Voltaire ne sont plus jamais jouées.
Mais elles sont au répertoire.
Elles sont au répertoire, bien sûr. Peut-être un autre exemple qui est peut-être plus connu aujourd'hui, c'est Marivaux. Marivaux était un auteur du XVIIIe siècle également. Et au XIXe siècle, par exemple, on jouait toujours les mêmes pièces. 3 ou 4 pièces les plus connues.
Lesquelles ?
Les Fausses Confidences, par exemple, Le Jeu de l'amour et du hasard. Mais des plus petites pièces, des pièces qui étaient moins connues, étaient totalement passées de mode.
Agathe Sangjuan, quand on dit répertoire de la Comédie Française, on s'imagine toujours que ce sont des grands auteurs.
Alors, il y a de tout. Il y a évidemment des très grands auteurs, mais malgré tout, certaines pièces de très grands auteurs ne sont pas au répertoire. Par exemple, Shakespeare. Il y a des pièces majeures du répertoire de Shakespeare qui n'ont jamais été jouées au répertoire.
Il faut être français pour faire partie du répertoire de la Comédie Française ?
Non, les auteurs étrangers sont tout à fait au répertoire.
Ionesco ?
Ionesco est au répertoire. Mais par contre, au répertoire, il y a évidemment une multitude d'auteurs qui nous paraissent totalement mineurs aujourd'hui et qui ne l'étaient pas de leur temps.
Et inversement, y a-t-il des auteurs majeurs ? Là, vous venez de citer Shakespeare, c'est vrai que c'est sidérant qu'il ne soit pas au répertoire.
Alors, pardon, Shakespeare est au répertoire puisqu'on a joué des pièces de Shakespeare, oui. Mais certaines pièces de Shakespeare n'y
sont
pas. Par exemple, Le Roi Lear, qui est une des plus grandes pièces de Shakespeare, n'a jamais été jouée à la Comédie Française.
Vous nous avez parlé d'auteurs du 18e, vous nous avez parlé de Shakespeare. Y a-t-il, par exemple, des auteurs du 21e siècle à la Comédie Française ? On a toujours l'impression que c'est quelque chose d'assez classique, ancien, entre guillemets.
Alors, ça, c'est une question très importante. La mission de la Comédie Française, c'est à la fois de rejouer le répertoire ancien, mais aussi d'enrichir ce répertoire avec de nouveaux auteurs. Donc ça fait vraiment partie du travail principal de ce théâtre, de faire connaître les nouveaux auteurs. Et par exemple, l'année dernière, on a joué un auteur contemporain qui s'appelle Lars Norén, qu'on n'avait jamais joué, et donc qui est entré au répertoire à cette occasion.
Vous nous avez dit, Agathe Sangjuan, qu'il y avait donc 3 salles à la Comédie Française. Donc quand on dit la Comédie Française à côté du Palais Royal, c'est la salle Richelieu. Donc il y en a 2 autres ?
Il y en a 2 autres. Il y a le Studio Théâtre qui se trouve dans le Carrousel du Louvre et le Vieux Colombier. Et les pièces qui sont jouées dans ces 2 salles uniquement ne font pas partie du répertoire. Le répertoire, c'est vraiment l'apanage de la salle Richelieu.
Vous pouvez réécouter cette question sur franceinter.fr. Et voilà, les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous, c'est Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Noël Bréham, Jean-Baptiste Audibert et le dernier arrivé, Pierre Faucillon. Nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Mais pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.